Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi 3 mars, parlons du dossier de l'ingérence chinoise. Jean-François Lépine sera avec nous plus tard, mais il pose une excellente question. Pourquoi la Chine s'intéresse tant au Canada et depuis quand? Puis quelles sont les méthodes utilisées? On a eu quelques éléments de réponse cette semaine. Hier, le comité sur l'ingérence est donc réuni. Il faut retenir peut-être deux témoignages. D'abord, le sous-ministre des Affaires étrangères, qui travaille donc avec Mélanie Joly, et qui est venu dire essentiellement que c'était exagéré, que des rapports de cette nature, qui coulent dans les médias, sont souvent le fruit de fonctionnaires un peu frustrés parce que ça avance pas assez vite à leur goût, et que de toute façon, il faut toujours prendre ces informations avec un bémol, en disant que c'était comparable à l'époque où l'ancien secrétaire d'État américain, Colin Powell, avait parlé de la présence d'armes de destruction massive en Irak qui auraient été, élaborées par le régime de Saddam Hussein. Et ça s'est avéré faux. Alors, ils pensent qu'on est dans le même genre de discussion ou de rumeurs qui circulent. Quant au patron du SCRS, d'abord, il ne veut pas trop commenter. On devine qu'il y a clairement une enquête pour connaître l'origine des sources. Et il dit « c'est dangereux pour nous de parler ». Parce que ça pourrait permettre, par exemple, d'identifier à la fois des individus et également comprendre nos méthodes d'enquête, donc permettre à des États étrangers de déjouer nos façons de faire, et c'est pas ce qu'on recherche. Il dit également que ça peut exposer donc des sources qui sont sensibles, des méthodes et des techniques aux adversaires du Canada. Mais soyons quand même assez clairs pour dire que il faut qu'il y ait une enquête publique pour comprendre exactement ce que les Chinois cherchent. Et ce qu'ils font avec le Canada, ben d'abord, ça date pas d'hier. Ça a peut-être pris une tournure différente depuis quelques années. Mais la Chine est à la recherche d'informations technologiques, veut influencer le politique. Les Russes font la même chose. Certains vous diront que les Américains, à leur façon, développent ce même genre d'approche. Alors, il faut pas non plus être naïf et penser que le Canada n'est pas une cible d'intérêt pour un pays comme la Chine. Alors, est-ce que M. Trudeau va finalement accepter la tenue d'une commission d'enquête publique? C'est ce qu'on verra. Et puis, l'Université de Montréal, qui dit avoir et qui confirme avoir reçu 550 000 $ de deux hommes d'affaires chinois. Et c'est un don initial de 800 000 là, qui avait été promis. Et on sait que la fondation de M. Trudeau, père, a décidé de remettre le 200 000. Puis l'Université de Montréal dit, ben, vous savez, nous autres, on a reçu à une époque où les relations avec la Chine, c'était pas comme aujourd'hui. C'était bien différent. Puis il y avait une volonté de rendre hommage à l'ancien premier ministre. Alors, il confirme avoir reçu, en tout cas, une bonne partie du montant. Je vous parle de la Société d'assurance automobile du Québec. Hier, là, encore une fois, beaucoup de courriels, et je vais résumer ça, là. Si vous avez fait affaire avec la Société d'assurance auto depuis la fin décembre, ou si vous tentez de faire affaire avec la Société d'assurance auto depuis la fin décembre, donc des transactions en janvier, je rappelle la quasi-fermeture des opérations à la Société d'assurance auto, là, il restait que quelques services disponibles, ben vous êtes dans le trouble. Puis vous êtes dans le trouble pour un bout de temps, je vous invite à écouter Denis Marcellet, qui est le PDG de l'assurance, de la Société d'assurance Auto du Québec.
Moi, je vous dirais, honnêtement, à fin avril. Vous savez que cette transformation-là est importante. On vous l'a dit à d'autres entrevues.
Oui, oui, oui.
Là-dessus. Mais ça reste quand même que c'est majeur. C'est le dossier de transformation numérique le plus important, non seulement au gouvernement, mais aussi au Canada actuellement.
Donc, si vous êtes dans l'attente, à moins que ce soit un cas d'urgence, là, un renouvellement de permis de conduire pour demain, alors, pour tout ce qui est rendez-vous, etc., là, ben, vous en avez possiblement pour encore tout le mois de mars et tout le mois d'avril. Ça, c'est deux mois, là. Et la société dit ne pas avoir prévu une crise de cette nature. Puis ils ont beau nous dire, vous savez, 50 % des transactions peuvent se faire en ligne. C'est vrai, puis c'est pas vrai. C'est-à-dire que oui. Mais là, la ministre Geneviève Guilbeault a dit hier, on va faciliter le processus d'inscription puis permettre aux gens d'authentifier leur identité. Parce qu'ils reconnaissent que c'est pas tout le monde qui est familier avec le web puis avec des applications, puis que ça peut être un petit peu difficile. Les transactions dans les garages, tu sais, les fameux transits là, de 10 jours, 20 jours, 30 jours, les gens qui doivent se déplacer ailleurs, des camionneurs qui se disent « ouais », tu sais, les fausses informations qu'on retrouve dans le système, t'as payé, puis le système le sait pas. Et là, il faut qu'ils colligent l'information du mois de janvier. Autrement dit, c'est un bordel. Et c'était, jusqu'à un certain point, prévisible. Et avant que la machine retrouve son souffle, tu sais, les affaires qu'ils nous disaient pas, là, l'histoire des paiements, moi, les auditeurs m'écrivaient et me racontaient ça. « Cher Arcand, t'es obligé de payer comptant ou faire un chèque. La machine ne marche pas. » M. Marcellet m'a dit hier, « Ouais, mais vous savez, ça arrive dans tous les commerces que l'appareil pour la transaction électronique ne marche pas. » Comprends? Mais avant, ça marchait à la sac, puis là, soudainement, le nouveau système fait que ça a planté. On n'est pas naïf à temps plein. Et puis, ce matin, j'apprends, en voyant des chiffres qui ont été publiés par la Société d'assurance auto, que le nombre de plaintes, ça, c'est avant le bordel de 2023, là, a augmenté de 153 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. Explosion des plaintes, et savez-vous pourquoi? Selon Radio-Canada, ce serait dû au fait que des employés ont été retirés du service à la clientèle pour suivre la formation pour le déploiement de la nouvelle plateforme. Et en plus, rareté de main-d'œuvre. Alors, on a pris des employés pour les former, donc moins d'employés pour le service à la clientèle, pas plus pénurie de main-d'œuvre, service pas bon à la Société d'assurance automobile du Québec. On verra si ça va leur prendre effectivement deux mois pour réparer le tout et se mettre à niveau. Le dossier vapotage. On sait que Québec va statuer très bientôt. Là, il y a un règlement qui devrait tomber. Et on comprend qu'ils ont l'intention de faire disparaître les saveurs qui attirent les plus jeunes. Mais je vais mettre les bémols dans deux instants. Alors, c'est évidemment beaucoup de pression sur le ministère de la Santé, sur le ministre Christian Dubé. Ce matin, la presse nous arrive. Et ils ont fait un test. Des tests comme ça, on a fait ça avec l'alcool dans le passé, avec le tabac. On a fait ça avec même, je vous dirais, pour l'avoir fait, là, avec des couteaux dans des magasins du centre-ville de Montréal, alors qu'il y avait une prolifération d'armes blanches à un moment donné. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un ado, une ado, puis tu dis, va t'acheter du matériel pour le vapotage. Puis on va voir si on va te vendre ça. Alors, ce qu'on découvre, donc, c'est que l'ado de 15 ans a pu se procurer des vapoteuses de nicotine dans trois dépanneurs de Montréal et que, dans certains cas, puis avec la saveur fruitée, là, puis là, vous avez le détail de l'opération. Par contre, au centre-ville, il y a quatre dépanneurs et deux boutiques spécialisées qui ont demandé des pièces d'identité. Alors, la conclusion, c'est que oui, il y a des gens qui enfreignent la loi, comme il y a des gens qui vendent de la bière à des mineurs, puis il y a des gens qui vendent, peu importe, là, l'âge de la personne. Puis c'est vrai pour des produits comme ça. Deuxièmement, il y a des gens qui respectent les règles, puis des gens qui ne vendent pas les produits. Troisièmement, il y a des adultes qui se substituent aux mineurs puis qui leur permettent d'avoir accès à ces produits-là. Puis il y a un marché noir en parallèle qui existe. Je vais vous dire, j'ai pas vraiment d'opinion. Je sais que le vapotage, beaucoup de médecins le confirment, là. C'est un moyen utile pour permettre à des fumeurs d'arrêter de fumer. Puis j'ai eu plein de messages hier de gens qui sont passés par là. Puis je connais des gens qui l'ont fait ici, Jacques Fabi, entre autres. Bon. Et que ces gens-là aiment vapoter et aiment ça avec certaines saveurs. Puis là, ils sont en maudit parce que pour décourager la consommation chez les jeunes, parce qu'on pense que ça peut amener ultimement au tabagisme, puis c'est peut-être pas faux parce qu'il y a une augmentation de la consommation de tabac chez les plus jeunes. Bref, il y a une clientèle qui est un peu en colère en disant « On me prive d'un produit de qualité qui m'aide à ne pas fumer. » Est-ce que ce sont les saveurs? Est-ce que c'est le design de certains produits qui attirent? Peut-être que c'est tout ça. Mais je veux juste faire attention, là, tu sais, l'espèce de réflexe automatique de dire « Bang! » On va enlever les saveurs et ça va régler le cas, puis les jeunes vont arrêter de consommer, ou en tout cas, c'est un pas dans la bonne direction. Peut-être dans un sens, mais peut-être pas aussi dans l'autre. Il y a peut-être, disons, plus de nuances à faire de ce côté-là. Maintenant, je reviens sur la mort de cette femme de 86 ans, Gilberte Gosselin, qui est décédée à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Elle est entrée à l'hôpital avec ses proches, fracture de la hanche, son état s'est détérioré. Et disons que ça a été une agonie dans un couloir de l'urgence. Et qu'elle est morte et que ça a même pris une heure avant que quelqu'un vienne confirmer son décès. Il y aura une enquête du coroner pour comprendre ce qui s'est passé, une urgence qui débordait. Mais c'est mourir sans dignité. Même le ministre Christian Dubé a dit hier, c'est troublant puis c'est inacceptable. Parce que tout ça va se confirmer. Je parlais avec la petite fille hier de la victime, puis m'a vous dire une chose, c'était assez crédible ce qu'elle racontait. Pourquoi c'est crédible? Parce qu'elle n'est pas la seule. J'ai eu des courriels, une auditrice qui m'a écrit, sa mère est morte à peu près dans les mêmes circonstances. Donc, au Québec, il y a des gens qui meurent sans qu'on puisse les traiter de façon digne et avec le personnel et avec la médication nécessaire pour limiter les souffrances. Et on est, savez-vous quoi? On est à géométrie variable dans le réseau de la santé. On n'a pas le personnel parce que le traitement fait qu'il faudrait donc des gens qui soient présents, qui entourent la personne, la patiente, le patient. Puis les soins palliatifs, on garde ça pour les cas de cancer, pour la plupart des... Bon, puis on n'a pas toujours assez de lits. Puis pendant ce temps-là, des cas comme André Simard, des cas comme... Gilberte Gosselin, ça tombe comme en deux chaises, tu sais. Et c'est ça qui n'a pas d'allure. Puis on n'est même pas capable, là je ne parle même pas du traitement, d'accorder cet espace de tranquillité à l'écart du chaos à une personne qui est en train de mourir à 86 ans. On verra donc pour la suite des choses. Parlons maintenant de Gilles Courteau. La ministre Charest change d'idée, puis dit finalement, peut-être qu'on pourrait ajouter des heures à ce comité de l'Assemblée nationale, cette commission parlementaire, pour entendre à nouveau le président, parce qu'il s'est contredit, Gilles Courteau, entre ce qu'il nous a dit à nous les députés, puis ce qu'il a dit dans une déclaration sous serment, que finalement, M. Courteau avait dit devant les députés qu'il n'y avait pas de cas rapporté où il y avait des actes violents comme ceux décrits en Ontario. Et puis finalement, on avait découvert par la suite, en 2021, un témoignage de M. Courteau qui avait lui-même constaté depuis 45 ans des problèmes de bizutage, donc d'initiation, dans l'organisation. Fait qu'il n'a pas dit tout à fait la même affaire. Puis on a eu le témoignage, grâce à Martin Leclerc de Radio-Canada, d'un joueur de la Ligue qui était là dans les années 95-98, Stephen Quirk, qui a raconté ce qu'on lui a fait. Là. Puis c'est des gestes violents, des gestes à connotation sexuelle, consommation d'alcool élevé. Alors, M. Courteau dit, c'est vrai que peut-être j'ai peut-être de la confusion, mais j'ai pas menti, puis j'ai pas l'intention de démissionner. Disons que là, il dit qu'il a été briefé par des avocats. De toute façon, il va être avec nous ce matin, puis juste rappeler qu'il va quand même quitter ses fonctions assez rapidement, il l'a déjà annoncé. Mais je répète le point le plus important. Devant des allégations comme celle-là, puis le travail d'un comité parlementaire, on peut bien faire revenir M. Courteau, mais est-ce qu'il y a des gens qui, à travers toutes ces équipes, à travers toutes ces années, peuvent lever la main et dire « Voici ce qui s'est passé. J'ai été témoin, j'ai été victime. » Je comprends que c'est pas facile, mais quand on veut dénoncer ou savoir exactement ce qui se passe dans un milieu comme celui du hockey junior, ben ça prend des gens pour parler. Parce que là, ça va être un discours, des questions, puis vous savez ce que je pense du format d'une commission parlementaire à Québec, là, c'est loin d'être un modèle d'efficacité. Mais bon, si on n'a pas des joueurs, si on n'a pas des entraîneurs, si on n'a pas des dirigeants, si on n'a pas des parents qui disent « Un instant, là, vous dire moi ce qui s'est passé, puis voici ce que j'ai vécu, tout ce que mon gars a vécu. » Ben malheureusement, ça risque de tourner peut-être à peu de choses. Parlons un peu d'économie aussi. Vous dire que l'augmentation des taux d'intérêt actuellement à la CIBC, des chiffres qu'on retrouve dans Globe and Mail, vous avez un emprunteur sur cinq de prêts hypothécaires là, qui se retrouve avec des augmentations qui rendent difficiles les paiements. Là, ce sont des gens là, pour qui c'est venu à échéance, qui ont dû renouveler leur hypothèque et ça leur coûte plus cher ou ça étire la période de remboursement. Et puis, ce matin, je vais vous parler de ce verdict qui est tombé hier. Une histoire incroyable. Alex Murda, avocat quatrième génération, on est en Caroline du Sud, famille d'avocats, de procureurs, de juges, donc notables, des gens influents, des gens qui ont du pouvoir. Il a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et de son fils. Les deux ont été abattus et Murda a plaidé le fait que d'abord il n'était pas présent pour ensuite découvrir vidéo de son fils assassiné, où on entend le père, la voix du père. Donc, il a menti. Il a reconnu, devant le tribunal, avoir menti. Je vous résume l'histoire. C'est un avocat célèbre, je vous dirais, par héritage. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus brillant, et c'est surtout un avocat qui a volé ses clients de plusieurs millions. Coupable hier d'avoir tué sa femme, d'avoir tué son fils. Son fils qui a été tué était ivre sur un bateau qui a eu un accident. Il y a une jeune fille qui est décédée. La bonne de la famille Murta a fait une chute dans un escalier extérieur et elle est décédée. Un jeune homme gay, ami de la famille, a été retrouvé mort sur une route tabassée. Ça fait beaucoup de morts autour de M. Murta. Ce qui est particulier, c'est qu'on n'a jamais retrouvé les armes du crime, parce que deux armes qui ont été utilisées, puis on a même trouvé de l'ADN d'une autre personne sur le corps d'une des victimes. Mais malgré cela, il a été condamné et on pense qu'il va recevoir une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Si l'histoire vous intéresse, sur Netflix, il y a une courte série documentaire qui raconte tous les faits qui entourent cette famille, des témoignages. Je pense que c'est 3 ou 4 épisodes. En tout cas, c'est relativement bref. Mais c'est une saga entre une famille riche, puissante, et des morts, on est obligé d'exhumer des corps pour se dire, coudon, est-ce que c'était un accident à l'époque ou c'était plutôt un meurtre déguisé?
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Parlons du dossier des initiations au hockey. Ben, finalement, la ministre Isabelle Charest probablement va convoquer à nouveau la commission parlementaire et les députés de la CAQ qui y participent sont d'accord. Là, on sait que c'est une initiative des députés. Tout ça pour entendre à nouveau le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau. Essentiellement, on l'accuse de s'être contredit. Il y en a qui parlent de parjure dans des témoignages rendus devant le comité parlementaire et témoignages également dans le cadre des procédures là sur ce recours collectif en Ontario. Et il y a le Parti libéral, Québec solidaire, qui demande même sa démission. Gilles Courteau est avec nous ce matin. Bonjour, M. Courteau.
Bonjour.
On va essayer de démêler ça. Là. D'abord, vous avez dit en commission parlementaire à Québec là, que vous n'aviez jamais vu ou on vous avait jamais tenu au courant d'événements comparables avec ce qu'on avait vu en Ontario. Donc, en termes de violence puis de violence sexuelle.
Exact. Mais c'est ce que j'ai dit.
Mais c'est pas vrai.
C'est parce que j'avais pas pris connaissance de l'affidavit de M. Kirk.
OK. Mais à quel moment vous avez entendu parler de l'affaire Kirk? Vous avez témoigné? Vous avez expliqué ce qui s'était passé selon votre connaissance?
Oui. Nous, quand on était avec les avocats, Jarquin, c'était davantage pour se préparer sur la demande du recours collectif. Les avocats qui nous ont partagé des extraits de d'affidavit dans le, on appelle ça un brief, dans le brief de nous rencontrer pour nous partager des éléments importants en préparation, en pré-préparation d'une éventuelle comparution à la Cour si jamais le recours collectif était pour être accordé. Il y avait certains éléments clés, dont moi, les éléments qui m'ont été partagés de ce que je connaissais d'affidavit, c'était sur les faits que l'entraîneur adjoint avait été ramasser le joueur qui s'était blessé, ivre, qui était coupé à la main et que lui est en autorité de l'emmener à l'hôpital et lui a dit « Tu dis que tu as pris deux bières, tu fermes ta boîte, puis tu ne dis rien d'autre. » Puis là, il l'a ramené par la suite dans le vaisseau. C'est là-dessus que nos avocats mettaient de l'emphase sur des éléments spécifiques. On savait en général qu'il est arrivé des initiations complètement inappropriées, scabreuses dans la Ligue canadienne de hockey. Mais pour moi particulièrement, ce qui a été rapporté dans le dossier de Quirk, c'est ce que je viens de vous parler.
OK, mais il y a quelque chose que j'ai bien de la misère à comprendre, là. Il y a un joueur qui a joué au Québec qui fait partie de ces joueurs qui initient la demande de recours collectif, c'est vrai?
Oui.
OK. Ce joueur-là raconte qu'il a été non seulement victime d'une initiation où il y avait un côté d'agression sexuelle, qu'il y avait de la violence, qu'il y avait de l'alcool. Moi, je me fie à ce que j'ai lu sur lui, là, et ça témoigne de son passage à Moncton puis Halifax. Vous, est-ce que vous le savez ou pas qu'il a subi tous ces gestes-là? Puis là, on va reprendre des propos graphiques, là, M. Courteau. Anus, le doigt, puis de la crème pour que ça brûle. Étiez-vous au courant de ça?
Non, parce que j'ai pas pris connaissance de l'affidavit.
OK, si vous aviez pris connaissance de l'affidavit, vous l'auriez su?
Oui, je l'aurais su.
Pourquoi vous n'avez pas pris connaissance de l'affidavit?
Parce qu'on était en préparation du dossier du recours collectif pour faire en sorte d'apporter des arguments que ce recours collectif-là ne pouvait pas être tenu de la façon dont c'était présenté par la partie demanderesse, de ne pas être aux 64 entités qui font partie de la Ligue canadienne de hockey, d'être responsable de payer pour quelque chose qui serait arrivé dans l'équipe X de la Ligue de l'Ontario ou dans l'équipe Y de la Ligue de l'Ouest ou Z de la Ligue junior majeure du Québec. Notre préparation était sur la défense qu'on devait présenter à la Cour pour faire en sorte à ce que le recours collectif ne soit pas accordé tel que la demande était faite par les avocats qui représentaient les joueurs.
OK. Il y avait combien de joueurs de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec dans ce processus de recours collectif?
À ma connaissance, il y en a un.
Oui. Il s'appelle M. Quirk. Stephen Quirk. Quirk, ouais. Quirk, pardon. Ouais. Puis ça vous a même pas tenté d'aller voir ce qu'il avait à dire, pourquoi il était le seul, puis qu'est-ce qu'il y avait comme déclaration dans le dossier. Son affidavit ne vous a pas intéressé?
Je dis pas que son affidavit ne m'a pas intéressé. C'est que dans le moment, la préparation qu'on avait, M. Arquin, était pour les éléments que je viens de vous partager sur la défense. Le dossier de Quirk, c'est quand que t'entends les avocats raconter des éléments de certains affidavits sans mentionner que tel joueur a subi telle chose à telle équipe, tel joueur a subi telle chose dans telle équipe de telle ligue. Nous, on a mis de l'emphase sur la préparation de la défense et j'ai pas accordé d'importance à l'affidavit de Quirk, ce que j'aurais dû faire.
Mais c'est ça. C'est parce qu'on se dit, il y a pas 40 joueurs, il y en a un. On se dit, il me semble que comme commissaire, je vais toujours bien prendre connaissance de ce qu'il affirme, de ce qu'il a vécu, dit-il, dans ma ligue, de quelle façon il a été traité. Ça vous a pas visiblement assez intéressé pour aller lire ça?
C'est-à-dire que, puis dans le moment, là, je sais pas si vous êtes déjà préparé à une défense contre un recours collectif, mais l'emphase était mise sur la défense du recours collectif. Un coup que dans l'approche des avocats, tu mentionnes que des joueurs qui ont subi des initiations complètement inappropriées, puis que dans le moment, il y avait des personnes en autorité dans certaines de ces affidavits-là qui étaient sur place au moment des initiations qui sont arrivées, ces choses-là. Et ça, c'est l'élément que nos avocats puis je vais parler pour moi, qui m'ont rappelé de dire, dans le cas de Quirk, dans son initiation, il est important que tu saches que l'assistant coach était présent, qui est allé le chercher, qui l'a amené à l'hôpital, qui lui a dit ce que je vous ai mentionné tantôt. Tu as pris deux bières, tu as tombé, tu t'es coupé, okay. Tu fermes ta boîte.
Est-ce que vous auriez pu demander à ce moment-là de voir l'affidavit de Quirk?
Oui, M. Arquin, j'aurais pu demander okay. aux avocats de voir l'affidavit de Quirk.
OK, parce qu'il y a un vieux réflexe, des fois, il ne faut pas toujours suivre les conseils des avocats dans le détail. C'est-à-dire que quand ils vous disent « concentrez-vous sur ça », vous avez le droit de dire « ben moi, j'aimerais voir le portrait un peu plus global ». Vous êtes le client quand même?
Oui, vous avez entièrement raison.
OK. Donc, quand vous avez témoigné à Québec, ça veut dire que vous ne le saviez pas à ce moment-là. C'est après que vous l'avez su, quoi, en voyant les propos rapportés par Martin Leclerc, c'est ça?
Oui, effectivement. C'est à ce moment-là que je suis arrivé puis que j'ai pris connaissance des faits puis que j'ai candidement avoué que j'aurais dû prendre connaissance de l'affidavit de Stephen Quirk, c'est ce que je n'ai pas fait.
OK. C'est arrivé, dit-on, là, entre 1995 et 1998.
Oui.
Vous étiez commissaire à ce moment-là?
Non, j'étais président. Président. Comme ça, après, mais j'étais président, oui.
OK. Président. Est-ce que, maintenant que vous savez ça, là,
oui.
Vous saviez qui était le propriétaire de l'équipe, qui était l'entraîneur, qui sont les gens impliqués. Vous les oui. connaissiez, j'imagine?
Oui.
Est-ce que vous allez fouiller pour savoir exactement ce qui s'est passé, puis si c'est vrai que ce joueur a subi des agressions sexuelles comme ça?
J'ai fait un premier appel à l'entraîneur-chef de l'époque, M. Lucien Deblois. Et lui, ce qu'il me dit, c'est que au moment des faits rapportés par Stephen Quirk, M. Deblois n'était malheureusement pas à Moncton parce qu'il était revenu au Québec pour assister à un funérail d'un de ses amis qui s'était suicidé.
OK, mais il va y avoir quelqu'un dans le vestiaire? Es-tu capable de vous guider pour trouver les personnes qui étaient présentes?
Le point qui est important, c'est de voir la liste des gens qui étaient entraîneurs adjoints. Et c'est certain que je vais appeler les entraîneurs adjoints qui apparaissaient sur le formulaire enregistré à la Ligue junior majeure du Québec pour en connaître davantage. Parce que si la question que vous posez est très légitime, M. Arquin, parce que si la partie demanderesse s'en va, va en appel, que l'appel est accordé, puis que on va procéder à aller à la cour, c'est certain que je vais personnellement être préparé adéquatement pour cette situation-là, puis j'aurai l'opportunité d'avoir parlé avec les gens concernés. Et également, ce qui est important de vous mentionner, c'est qu'à l'époque des Alpines de Moncton, où M. Quirk évoluait, nous, la Ligue junior majeure du Québec, on a eu à prendre l'équipe en tutelle parce que on avait des problèmes avec le propriétaire, donc on a opéré à distance l'équipe avec le personnel en place pour les raisons que je viens de vous énumérer là, sur le propriétaire de l'équipe qu'on avait, okay, avant qu'on vende l'équipe à M. Irving.
Mais là, je juste comprends, attendez-vous qu'il y ait une procédure d'appel ou si, comme maintenant, vous allez demander à avoir la liste des adjoints de savoir qui faisait partie là, du personnel?
Non, j'attendrai pas qu'il y ait une procédure d'appel. Okay. On va faire les contacts avant qu'on ait la décision de procédure d'appel, M. Arquin.
OK. Je sais là, que depuis les dernières années, il y a un code que probablement ces pratiques abusives, je dis bien probablement, là, que ces pratiques abusives n'existent plus, que c'est de façon un peu plus, disons, civilisée. Mais M. Courteau, avec tout le respect, là, j'ai de la misère à croire que dans les années 80, 90 jusqu'au début des années 2000, il n'y a pas eu de cas dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec où des joueurs ont subi des agressions sexuelles, puis des actes violents, puis des affaires dégueulasses qui n'ont pas de bon sens. J'ai de la misère à croire que ce n'est jamais arrivé.
Vous savez, M. Arquin, en réponse à cette question-là, moi je vous réponds, je n'ai jamais eu de plainte d'une nature quelconque sur une initiation inappropriée.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plainte, que c'est pas arrivé.
Non, exactement. Mais pour moi, pour qu'on puisse... D'abord, ce qui est important, là, M. Arquin, là, dans notre structure de ligue, là, le premier intervenant est le club. L'équipe, là, c'est lui qui a la responsabilité de s'assurer que des initiations, il n'y en a pas. Puis quand vous référez aux années 80-90, de s'assurer que s'il y a une forme d'initiation, avant qu'en 2003 on interdise les initiations, s'il y a une forme d'initiation, que ça se fasse de façon appropriée. C'est à l'équipe à prendre les mesures nécessaires. Nous autres, on a les programmes, les politiques en place, mais la première instance, là, c'est nos équipes dans la Ligue junior majeure du Québec qui doivent s'assurer de ça.
Absolument, je dis pas le contraire, mais Sérieusement, là, on se dit, c'est pas vrai que c'est arrivé au Canada, en Ontario, puis dans l'Ouest, puis que ça s'est pas passé au Québec. Je comprends qu'il n'y a pas eu de plainte, je comprends que la responsabilité, c'est l'équipe, mais sérieusement, là, si ce gars-là a vécu ça à Moncton, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas eu un cas à Victoriaville? Qu'est-ce qui nous dit que... Puis qu'on connaît un peu le système de l'omerta, t'en parles pas, tu veux jouer dans la Ligue nationale, fait que tu fermes ta gueule, puis t'encaisses.
M. Arquin, je ne peux pas nier ce que vous avancez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que de notre côté, j'ai jamais eu quelqu'un qui a levé sa main pour dire « Hey, je veux déposer une plainte » ou « Je veux vous partager ce que j'ai vécu comme joueur de hockey ». J'ai eu l'opportunité, M. Arquin, dans les dernières semaines, d'assister à des rencontres d'anciens joueurs dans le cadre du 50e anniversaire à Chicoutimi, à Gatineau, puis les retrouvailles à Trois-Rivières. J'ai rencontré des joueurs qui ont joué là, dans les années 70, 80, puis qui, au début 90, et les joueurs venaient me voir et me dire, écoute, jamais qu'on a pu avoir connaissance que quelque chose est arrivé, voici ce qu'on avait comme initiation, se faire couper les cheveux, transporter les sacs des vétérans au niveau des recrues, de faire en sorte de transporter l'équipement du personnel de soigneurs, d'entraîneurs pour dans l'autobus, puis ces choses-là. Il y en a eu des éléments qu'on a eu connaissance, que j'ai déjà rapporté à une dernière entrevue que j'ai faite avec vous, effectivement. C'est à partir de là qu'on a décidé d'interdire les initiations en 2003.
OK, mais je vous donne un exemple. Ouais. C'est vrai, quand on s'est parlé la dernière fois, vous m'avez parlé d'une initiation des joueurs. On leur avait mis des biscuits, m'aviez-vous dit, dans l'anus, puis qu'on les faisait promener. Est-ce que vous pouvez me dire avec quel club ça s'est passé?
Je me souviens pas exactement avec quelle équipe, mais je me souviens qu'on avait eu ça, mais là, je peux pas me rappeler avec quelle équipe c'est arrivé dans cette situation-là.
Ben, sérieusement, là, quand c'est arrivé une fois, puis vous n'êtes pas capable de me dire quelle équipe? Non,
parce que ce que je veux dire, monsieur Arquin, dans les exemples que je vous ai donnés, des situations qui sont arrivées, là, j'ai des noms des équipes, mais d'arriver et de dire spécifiquement cette équipe-là est arrivée avec les biscuits dans l'anus comme vous rapportez, il faut que je sois honnête, là, je me souviens pas.
En quelle année c'est arrivé, d'après vous?
C'est arrivé à la fin des années 90, début 2000.
Donc, juste avant l'entrée en vigueur.
La mise en place, oui, exactement, de notre politique.
Puis, y en a-tu d'autres événements comme ça, biscuits ou autres, qui ont été portés à votre connaissance?
Non, aucun autre.
OK. Ça se peut. Dernière question de technique, là. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu des plaintes ou des tentatives de plaintes, puis que ça se soit jamais rendu à vous?
Bien, dans le moment, de la façon dont on travaille avec Mme Natasha Lorenz, notre personne responsable du... service aux joueurs, elle peut recevoir les demandes ou elle peut recevoir des plaintes pour signifier ça. Puis quand ça arrive, si jamais ça arrivait quelque chose qu'elle considérait important, elle me le partage. Puis dans le moment, la relation que j'ai avec Mme Lorraine, je suis convaincu que s'il y avait eu, si ça lui avait été rapporté, ce genre d'initiation inappropriée-là, elle m'en aurait fait part. Ou si c'est arrivé à quelqu'un dans le bureau, un de mes employés dans le bureau qui avait entendu ça, puis qui serait arrivé, puis me l'aurait reporté, certainement. Mais c'est pas arrivé. Je n'ai pas eu.
Vous n'avez pas l'intention de quitter avant la date prévue, là, qui est le 31 mai 2024?
M. Arquin, absolument pas. Moi, là, je vais vous expliquer quelque chose ce matin à vous, là. Ça fait 47 ans que je suis dans la Ligue junior majeure du Québec. J'ai donné ma vie à cette Ligue-là. J'ai collaboré, bien humblement, là, collaboré à faire progresser cette Ligue-là, à s'assurer que nos joueurs, que je considère comme mes propres enfants, 400 joueurs par année, je les considère comme étant mes propres enfants, nos entraîneurs comme mes grands frères pour prendre soin d'eux autres. Puis l'évolution qu'on a faite dans la Ligue junior majeure du Québec aujourd'hui, là, en 2023, je suis extrêmement fier de ça. Puis j'entends demeurer en poste jusqu'au 31 mai 2024, parce que je peux vous assurer qu'on va continuer à améliorer notre ligue, continuer à mettre des politiques, des programmes en place pour s'assurer que de deux choses. Premièrement, le bénéfice de nos joueurs qui puissent se développer dans un environnement sain et sécuritaire, de faire en sorte, avec notre code du vestiaire, de travailler à éliminer le fameux code du silence qui peut encore malheureusement exister. Et troisièmement, à mon successeur, je vais lui donner une maison solide, clean, qui va rentrer là, puis qui va être capable d'opérer, puis d'amener ses idées, puis de continuer à faire progresser notre ligue, comme je l'ai fait pendant toutes les années que j'étais là.
OK. Et vous allez aller témoigner si on vous convoque devant la commission parlementaire.
Oui, M. Arquin, je vais y aller.
Merci beaucoup, M. Courteau.
Bienvenue.
Merci, au revoir. Gilles Courteau est le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, on a eu hier quelques témoignages devant ce comité à Ottawa. Ultimement, ça va peut-être aboutir par une enquête publique sur l'ingérence de la Chine. Mais il y a beaucoup de questions à poser, puis on va les poser à notre ami Jean-François Lépine, qui est là ce matin. Bonjour, Jean-François.
Bonjour, Paul.
D'abord, question très simple. Pourquoi les Chinois sont si intéressés par les résultats des élections canadiennes? Pourquoi le Canada les intéresse?
Ouais, ça c'est intéressant, mais justement au moment où on se parle, Paul, je viens d'apprendre, là, parce que j'ai lu le South China Morning Post, qui est le plus grand journal de Hong Kong, qui dit que hier, en aparté, parce qu'il y a le sommet du G20 en Inde, le ministre des Affaires étrangères de Chine, Qin Gang, a rencontré Mélanie Joly pour l'avertir, demander au Canada de cesser la diffusion de ses allégations fondée sur des rumeurs et de cesser de nuire à l'image de la Chine au Canada. Ce qui est étrange là-dedans, c'est que ce sont les mêmes propos aussi tenus par David Morrison, un sous-ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi parle de rumeurs en ce qui a trait aux fuites que le Globe and Mail a publiées, fuites de renseignements des services secrets canadiens. Donc, il y a là vraiment quelque chose d'inquiétant un peu dans cette situation-là. Quand on parle de rumeurs, on voit que d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de gens qui sont embêtés par ces révélations-là. Pourquoi la Chine s'intéresse au Canada? Parce que la Chine, d'abord depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, a une politique étrangère beaucoup plus agressive qu'avant. On appelle ça la politique des loups guerriers. La Chine veut s'imposer comme une grande puissance et surtout exercer son influence partout dans le monde. Pourquoi au Canada? D'abord parce que le Canada, c'est un pays de ressources naturelles, un pays de technologie de pointe, un pays qui a un certain rayonnement international. Donc, c'est un pays qui est important à un certain niveau pour la Chine, mais aussi parce que dans le cas du Canada, pourquoi intervenir dans les élections? Parce que après la période du gouvernement Harper, qui était beaucoup plus critique face à la Chine, la Chine voulait vraiment avoir un gouvernement plus malléable. C'était la perception qu'on avait de Justin Trudeau. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui, cette espèce de volonté. Donc, d'avoir un Justin Trudeau au pouvoir et, en plus, si possible, minoritaire pour qu'il soit encore plus malléable et plus susceptible d'accepter ou de subir des pressions. Maintenant, la Chine, dans tout ça, n'a aucun scrupule, Paul, et je vais te donner un exemple. Quand je suis arrivé en poste comme représentant du Québec, dans les débuts de mes fonctions, je me souviens qu'un représentant chinois était intervenu auprès de moi et certains de mes collègues à l'époque pour qu'on convainque le gouvernement du Québec d'empêcher la tenue à Montréal d'un grand rassemblement qui devait avoir lieu avec le Dalai Lama, donc le leader spirituel du Tibet. Alors tu vois, juste avec cet exemple-là, à quel point il y a des interventions et il faut être extrêmement vigilant face à tout ça.
Profitons de ton expérience pour un peu comprendre de quelle façon la Chine utilise les ressortissants chinois, comment on se sert de la communauté qui est au Canada.
Ouais, d'abord, il y a, depuis, encore une fois, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, il y a un organisme chinois qui s'appelle le Front Uni, qui est directement lié au gouvernement central chinois et qui s'occupe d'entretenir des contacts avec toutes les communautés chinoises à travers le monde. Et le Front Uni a pris beaucoup d'importance depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Alors, c'est un système où les diplomates chinois dans le monde, et ça se passe au Canada en particulier, mobilisent les communautés chinoises de gré ou de force, hein, les extraits des rapports du SCRS, tout ce qu'on lit, encore une fois, c'est pas moi qui ai fait l'enquête, là, mais c'est ce que je lis, ce que je vois, puis ça correspond à des choses qui se passent partout dans le monde. Bien, on mobilise les communautés en disant, par exemple, si vous ne faites pas ceci, vous avez de la famille en Chine, faites attention. On dit aux étudiants, par exemple, on utilise les étudiants chinois au Canada pour qu'ils aillent travailler pour les élections, pour faire gagner des candidats qu'on veut voir gagner. On dit aux étudiants, vous avez des visas chinois pour venir étudier ici, faites attention si vous voulez pas les perdre. Ça, c'est ce qui a été écrit, c'est ce qu'on dit et tout ça. On se sert aussi des Chinois canadiens qui ont de l'argent pour financer des campagnes électorales au Canada. Et on dit, encore une fois dans les rapports qui ont été publiés, que le gouvernement chinois ensuite rembourse ces riches Chinois-là qui contribuent aux campagnes électorales au Canada. C'est tellement important ce phénomène-là que l'ancienne consule générale de Chine à Vancouver se vantait elle-même, encore une fois selon les révélations, de ses réussites en termes de pression électorale, en termes de candidat qu'elle avait contribué à faire passer. Je vais te donner un autre exemple. Paul, j'étais à Montréal quand le premier ministre chinois Li Keqiang est venu à l'automne 2016 en visite à Montréal. Puis à l'époque, je voulais que le gouvernement du Québec tienne un dîner d'État pour recevoir le premier ministre chinois qui était d'abord passé à Ottawa. Et la délégation chinoise nous disait, le premier ministre chinois n'aura pas le temps, son horaire est trop pris. Et on a découvert presque à la dernière minute que le premier ministre chinois allait avoir un dîner très important à Montréal où n'allait assister que des membres de la communauté chinoise canadienne. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est quand les officiels chinois se déplacent à l'étranger, le président Xi Jinping, son premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, ils ont souvent ce genre de grandes réunions pour faire, comme on dit en anglais, un pep talk à la communauté pour leur dire « Vous avez un devoir de représenter la Chine, de nous aider ». Etc., etc.
Mais parle-nous de ces intermédiaires. On a vu d'abord des liens entre certains Chinois très riches, la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. D'ailleurs, la Fondation remet le 200 000 $ reçus. Qui sont ces gens-là qui gravitent autour des politiciens et des fondations?
C'est intéressant. Quand on voit, en fait, le don dont on parle, c'est un don qui s'est passé en 2016, un peu après la première élection qui a élu Justin Trudeau comme premier ministre au Canada. Le don se fait à l'Université de Montréal. Il va en avoir un tout aussi important à l'Université de Toronto. Et c'est fait par un personnage, entre autres, qui s'appelle Zhang Bin. Zhang Bin, je l'ai connu, moi, parce que c'était un personnage qui dirigeait une association qui s'appelait l'Association des industries culturelles de Chine. Il était passé à Montréal et moi, je partais pour la Chine et c'était très important. Ce personnage-là voulait absolument investir et travailler avec les compagnies, l'industrie des jeux vidéo à Montréal. À l'époque, on voulait beaucoup développer l'industrie culturelle du Québec en Chine et lui offrait d'investir dans les jeux vidéo. Dans les photos qu'on voit du don qui a été remis à l'Université de Montréal, en passant, en partie, il y avait sur 1 million de dollars, il y avait 750 000 dollars qui allaient à l'Université de Montréal, 200 000 à la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Ben, on voit M. Zhang Bin avec un autre Chinois. On l'appelle à l'époque le milliardaire chinois. En fait, c'était, on va l'apprendre beaucoup plus tard, un envoyé spécial du gouvernement chinois avec dans ses poches des millions de dollars à distribuer au Canada pour que la Chine exerce une certaine influence. Il a même été impliqué à l'époque, je m'en souviens, il en parlait dans l'achat du château Montebello par un groupe chinois, une méga société immobilière chinoise qui s'appelle encore aujourd'hui Evergrande, qui est en difficulté financière terrible. Il se vantait, cet homme-là, M. Zhang Bin, d'avoir contribué en 2015 à la campagne électorale de Justin Trudeau, moyennant quoi il avait pu rencontrer le premier ministre Trudeau. On voit d'ailleurs des photos disponibles des deux hommes qui se serrent la main, qui ont un grand sourire. Et puis on a découvert donc par la suite que cet homme-là, c'était un personnage qui était très près du numéro 2 du régime de Xi Jinping, un personnage qui est aujourd'hui en disgrâce. Mais c'est comme ça que le gouvernement chinois intervient en partie dans des pays comme le Canada.
En terminant, Jean-François, qu'est-ce que le Canada peut faire? Qu'est-ce que le Canada doit faire?
Paul, l'Australie a goûté à cette médecine-là bien avant le Canada, à un point où les Chinois en Australie avaient des contrôles sur les universités chinoises, sur les ministères sur les universités australiennes, sur les ministères du gouvernement australien. Le gouvernement australien a adopté à partir de 2018 toute une série de mesures pour contrôler le financement des partis politiques provenant de l'étranger, pour contrôler l'influence indue, pour contrôler l'espionnage. Et ça, c'était sous le premier ministre Scott Morrison à l'époque, qui était un premier ministre plus conservateur. Je pense que c'est une des premières choses qu'on devrait faire au Canada. Ça a déjà commencé, d'ailleurs. Le ministre Champagne est intervenu pour demander aux investisseurs chinois dans les secteurs des minéraux stratégiques au Canada de se retirer. Il y a des nouvelles règles qui vont être imposées pour la recherche universitaire, la collaboration entre la Chine et le Canada. Bref, ça, c'est une étape qu'il faut absolument faire. Puis aussi, il y a toute la question de poursuivre cette enquête-là et de vraiment essayer de comprendre comment ça se passe. Parce que on a beau parler de rumeurs, on a beau parler aussi de secrets, des services secrets canadiens qu'on ne veut pas révéler en public, mais je pense qu'il y a une enquête qui s'impose pour en savoir plus, parce que c'est extrêmement délicat en termes de souveraineté canadienne.
Jean-François, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va parler du dossier du vapotage. On sait que le ministre Christian Dubé, en principe, doit présenter un règlement, le règlement qui vise à faire en sorte que les produits de vapotage ne soient plus aromatisés, parfumés. On veut que les jeunes soient moins attirés. Il y a une forte consommation depuis déjà quelques années. La presse, ce matin, a fait une expérience et on se rend compte qu'il y a des dépanneurs et certains vendeurs de produits de vapotage qui font pas dans la dentelle, là, qui demandent pas de pièces d'identité et qui vendent à n'importe qui. D'autres ont dit non. Mais il y a aussi beaucoup d'anciens fumeurs qui ont utilisé le vapotage pour mettre fin à la consommation de cigarettes, par exemple, et qui m'écrivent depuis hier, puis pas juste à moi, là, pour dire, écoutez, on aime ça quand ça goûte un peu, je sais pas moi, le melon d'eau, ou que ça goûte la fraise, ou que ça... Bon. Alors, est-ce qu'on doit vraiment faire disparaître les saveurs pour faire en sorte que les jeunes soient moins attirés? Le docteur Paul Poirier est avec nous, cardiologue et responsable du programme de prévention de réadaptation cardiaque à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Poirier, bonjour.
Bonjour, M. Artin. J'espère que vous n'avez pas fumé votre petite cigarette avec votre café à matin.
Non, sans savoir, café noir seulement. Docteur Poirier, là, je suis un peu, là, puis c'est vous l'expert, là, mais j'entends des gens qui me disent, écoute, j'ai arrêté de fumer grâce aux produits de vapotage, puis oui, il y avait une saveur, puis oui, c'était plus facile. Puis j'entends d'autres, là, des médecins qui me disent, il faut, là, c'est un premier pas, faire disparaître les saveurs. Vous en pensez quoi, vous?
Ben, écoutez, là, ça peut être long, là, mais on va y aller au plus court, OK?
OK.
C'est très, 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 très clair dans la littérature, puis la dernière grande étude a été présentée le 17 novembre 2022, que le vapotage est un excellent outil et meilleur que les patchs pour arrêter de fumer chez un fumeur. Ça, c'est clair. Et les guidelines américains sont un petit peu plus temporisés, puis on les suit malheureusement, mais les guidelines canadiens de la maladie cardiovasculaire périphérique mentionnent que le vapotage pourrait être utilisé comme pour arrêter les fumeurs de fumer la cigarette de tabac. Je peux pas croire que ces gens-là sont fous à temps plein, là.
OK, mais ça, c'est le premier constat. OK, c'est utile, puis ça permet une transition. Parfait.
Oui, oui.
L'autre réalité, c'est la consommation chez les ados, chez les plus jeunes.
Ouais.
Ça aussi,
ouais.
C'est en croissance.
Oui, ça, c'est intéressant. OK, je suis pas pédiatre, puis je suis pas pneumologue. Et les pédiatres et les pneumologues vont lever le bras dans les airs en disant le vapotage, c'est épouvantable. OK? Moi, je suis cardiologue. OK? Alors, si on regarde en Angleterre, le vapotage est là depuis 2014. Si, dans les 10 dernières années, en Angleterre, le vapotage chez les jeunes aurait amené les jeunes à être des fumeurs de tabac, ben le tabagisme aurait dû augmenter en Angleterre, ce qui n'est pas le cas. Point. Deuxième chose, quand tu regardes les études de gens qui vapotent aux États-Unis, plusieurs dizaines de milliers de patients, est-ce que ça s'est associé à des maladies cardiovasculaires? La réponse est non. Alors?
Quand
les fruits, la menthe, puis le menthol, puis tout ça, là, les saveurs de fruits, ça, c'est pour les jeunes, puis les saveurs de type tabac, ça, c'est pour les vieux. Il y a à peu près 7000 saveurs. Le problème, là, de la cigarette électronique, c'est que c'est pas réglementé. Vous l'avez dit. On peut en avoir chez des dépanneurs qui ont pas de scrupules, puis on peut l'avoir dans des shops. C'est la même affaire que le cannabis qui est rendu légal dans des shops, puis qui est rendu sur la rue, puis qui est moins cher. Fait que, je veux dire, on a la même affaire. Mais de là, de dire que le vapotage amène les jeunes à devenir des fumeurs, c'est faux. Et quand on regarde les sondages, ben, quand ils posent des questions aux jeunes, est-ce que vous avez vapoté dans les 30 derniers jours? Ben, il y a la grande majorité vont dire oui, j'ai vapoté. Ça n'en fait pas des vapoteurs à temps plein, ça.
L'autre question, docteur Poirier. Là, on parle beaucoup de vouloir décourager les jeunes de vapoter, mettons. On a vu les mesures prises pour le tabac, donc rendre le paquet de cigarettes lait à faire peur là, aux consommateurs. Est-ce que on devrait, selon vous, réglementer, appelons ça, le design des articles de vapotage pour que ça soit moins cool?
Pensez-vous que ça va changer les jeunes à vapoter? Je veux dire, les jeunes, là, interdisez quelque chose, là, ils vont aller le chercher juste pour l'attrait de l'interdiction. Hein? Puis les jeunes, ils savent tout très bien que de faire de l'activité physique puis de manger de bien manger, c'est très bon pour la santé. Ils s'en foutent, ils vont continuer à manger de la scrap puis à gamer puis devenir obèse. Alors, je suis pas sûr que ça va changer grand-chose, honnêtement.
OK. La question qui est évidemment... au final, la plus importante, vous appelez Christian Dubé, là, vous avez des lobbies qui font pression. Vous faites quoi avec le règlement? Vous suivez l'avis de santé publique ou vous restez au neutre?
Écoutez, moi, je suis pas sur ces comités-là de santé publique. Je ne suis pas certain que mon collègue Martin Junot soit là-dessus non plus. Ça, c'est comme le fameux rapport puis l'alcool, hein? Si vous voulez avoir quelque chose déjà fait d'avance, ben vous organisez pour un comité qui va aller dans votre sens. Alors, okay. Je voulais que je vous dise, l'alcool, là, ça a été épouvantable, ça, ce rapport-là. Mais il n'y a pas personne qui a pris ça dans les médias en disant que l'alcool était cardioprotecteur au niveau des maladies.
Votre collègue, monsieur, Dr. Junot, était avec nous la semaine passée pour parler de ça.
Alors, voyez-vous, je suis bien content, parce que les patients sont encore mêlés, puis les médecins ne liront pas le rapport de 84 pages.
OK. Merci beaucoup, Dr. Poirier. Au plaisir.
Merci, ça me fait plaisir.
Au revoir. Dr. Paul Poirier, cardiologue, donc, il est à Québec. Puis on verra ce que le gouvernement va faire avec ça. Maintenant, on va vous parler d'une histoire absolument incroyable qui a connu son dénouement hier avec un verdict de culpabilité. C'est l'histoire d'un avocat qui a volé ses clients, qui a tué sa femme, puis qui a tué son fils. Et hier, le verdict de culpabilité, évidemment, est tombé, double meurtre. C'est un avocat qui s'appelle Alex Murda, et l'histoire se passe en Caroline du Sud. Richard Châteauvert est avec nous. Richard, bon, le verdict est tombé très rapidement, il faut le dire, là. L'accusé fait partie d'une famille implanté en Caroline depuis des lunes. C'est une dynastie d'avocats. Je pense que c'est la quatrième génération. Et on l'a reconnu coupable du double meurtre, donc sa femme et de son fils.
Oui. En 2021, Paul, Alex Murda était âgé de 52 ans. Il était marié et père de deux garçons âgés au début de la vingtaine. Mais il avait une double vie. Avocat éminent spécialisé dans les poursuites en dommages corporels et accro aux opioïdes depuis 20 ans. Pendant le procès, il a indiqué qu'il prenait 60 comprimés par jour, ce qui lui coûtait jusqu'à 50 000 $ par semaine. Sa dépendance l'a poussé à voler près de 9 millions de dollars à ses clients et aux associés de son cabinet. Sachant que ces vols et détournements de fonds allaient être mis au jour, le soir du lundi 7 juin 2021, Alex Murda a assassiné sa femme et son fils près des chenilles dans le domaine familial de 7 km carrés pour s'attirer la sympathie et retarder la découverte de ses crimes. Le procès pour double meurtre a duré près de 6 semaines, 70 témoins ont été entendus et le jury a reconnu Alex Murda coupable en moins de 3 heures.
Bon, mais Richard, il y a quand même des points sombres dans ça. Sauf erreur, les armes, les deux armes qui auraient servi pour le double meurtre n'ont pas été retrouvées. Il n'y avait pas une preuve énorme contre Murda.
Il n'y avait pas de preuve directe, il n'y avait pas de témoin, c'était une preuve circonstancielle, mais Murda a commis presque le crime parfait. Il a utilisé deux armes familiales, une carabine et un fusil, pour faire croire qu'il y avait deux tueurs. Les deux armes n'ont jamais été retrouvées. Les meurtres ont été commis un peu avant 21h et Murda a alerté les policiers un peu après 22h. Il a dit aux policiers qu'il n'avait pas été présent de la soirée près des chenilles avant de découvrir les deux victimes, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelques minutes avant d'être assassiné, son fils, Paul Murda, a enregistré une vidéo Snapchat sur laquelle on entend les voix de Maggie et Paul, les deux victimes, et d'Alex, l'assassin. Au moins 10 témoins ont confirmé qu'il s'agissait bel et bien de la voix d'Alex Murda, qui a été forcé de ce fait de témoigner et d'admettre son mensonge. Toute sa défense s'est effondrée. Le prononcé de la sentence aura lieu ce matin à partir de 9h30. Alex Murda fait face à une peine minimale de 30 ans d'emprisonnement et maximale de réclusion à perpétuité. Mais après le prononcé du verdict, le juge a souligné que la preuve était accablante, ce qui indique qu'il pourrait très bien imposer la réclusion à perpétuité.
Mais c'est une histoire rocambolesque, parce que là, on vient de parler de sa dépendance, du vol d'argent, d'un double meurtre, mais toute l'histoire commence. La saga de la famille, en tout cas, c'est par un accident de bateau, alors que le fils qui a été assassiné est en état d'ébriété, cause un accident, puis une jeune fille qui est décédée.
En état d'ébriété, très en état d'ébriété. Donc, au mois de février 2019, Paul Murda, celui qui a été assassiné, a fait une randonnée en bateau à moteur avec 5 copains et copines. Paul Murda était extrêmement ivre et le bateau a heurté un ponton. Tous les occupants ont été projetés dans l'eau et une jeune femme de 19 ans a été tuée. Paul Murda a été inculpé au criminel et la famille de la victime a poursuivi la famille Murda au civil. Et 3 jours après le double meurtre, une audience était prévue dans cette poursuite au civil au cours de laquelle Alex Murda devait produire ses états financiers. Donc, évidemment, à cause du double meurtre, l'audience a été annulée. Alex Murda était tellement désespéré que 3 mois plus tard, il a demandé à un ami de l'assassiner. Et il a fait semblant qu'il avait été atteint de coup de feu par un inconnu, mais c'était quelqu'un qu'il avait recruté lui-même. Il a été atteint d'un seul coup de feu, à la tête, et il a survécu. C'est à ce moment-là que son cabinet d'avocats a découvert toutes ses fraudes et ses détournements de fonds. Il fait face également à 99 chefs d'accusation pour tous ses crimes économiques. Il y a autre chose aussi, c'est que la gouvernante des Murda est morte en 2018. Elle aurait trébuché sur un des chiens et se serait heurté la tête dans un escalier. Aucune autopsie n'a été pratiquée. L'enquête a été rouverte et en plus, Alex Murda a dit au fils de la victime, poursuivez-moi et ma compagnie d'assurance, vous allez recevoir par le biais de ma police d'assurance des millions de dollars. Et dans les faits, les deux fils n'ont jamais reçu les 3,7 millions qui leur étaient dus. Ils vont sans doute les recevoir, enfin, s'il reste de l'argent. L'enquête a été rouverte sur la mort de la gouvernante. En 2015, un jeune homme de 19 ans a été retrouvé au milieu de la route à une quinzaine de kilomètres du domaine des Murda. La médecin légiste a conclu qu'il avait été victime d'un délit de fuite, ce avec quoi les policiers enquêteurs n'étaient pas d'accord. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui impliquait les Murda, parce que il y avait toujours quelque chose avec les autorités qui était clair assez très rapidement. Donc, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui connaissent déjà cette histoire, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous recommande 2 documentaires. Un qui est très visionné actuellement sur Netflix, qui s'intitule Murda Murders, A Southern Scandal. Murda, ça s'écrit M-U-R-D-A-U-G-H. Et un autre sur HBO Max, qui s'intitule Low Country, The Murda Dynasty. Une histoire absolument intéressante qui n'est pas terminée parce qu'encore, comme je l'ai dit, on a le prononcé de la sentence ce matin et toutes ces poursuites qui vont venir sur les détournements de fonds. Mais pendant qu'il a témoigné, Alex Murda a reconnu tous ces détournements de fonds. Donc, et ce qu'il a dit pendant son témoignage va pouvoir être utilisé contre lui dans les procès ultérieurs.
Merci beaucoup, Richard, qui nous parle en direct de New York. J'ai vu la série documentaire sur Netflix pas plus tard que la semaine dernière parce que je suivais le procès en parallèle. Et il y a du cadavre là-dedans, là. C'est-à-dire que des morts puis des gens qui meurent, qu'on enterre puis que là on exhume suite à des découvertes, puis un fils qui est pas mort, qui est le fils aîné, qui est allé étudier le droit pour poursuivre dans la dynastie, puis qui a été pincé pour plagiat, puis on le soupçonne d'être impliqué. Je n'en dis pas plus, mais si vous aimez le style documentaire, puis des histoires un peu ténébreuses d'une famille extrêmement puissante, puis vous allez voir l'attitude des policiers quand il y a l'accident de bateau puis que la jeune fille est morte. Tu te dis, une famille qui a le bras long et qui est capable de s'en servir.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.